Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. En ce jour où nous commémorons le centenaire de l'armistice de la guerre de 1914-1918, l'Église, dans toutes les paroisses du monde, nous invite à contempler deux femmes, veuves. La première habitait Sarepta, c'est aujourd'hui une petite ville du Liban. C'était au IXe siècle avant Jésus-Christ, dans un temps de guerre qui affamait le peuple. Et une pauvre veuve n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile, juste de quoi survivre avec son fils unique en attendant la mort. Et voilà que, mettant toute sa confiance dans la parole du prophète Élie, elle a tout donné. L'autre veuve vivait à Jérusalem au premier siècle, et Jésus, à l'entrée du temple de Jérusalem, regardait cette veuve mettre sa modeste obole dans le tronc des offrandes à l'entrée du temple. Son offrande était toute petite, toute petite, toute petite, beaucoup plus petite que les offrandes que les riches déposaient ostensiblement. Elle, cette humble veuve, a mis, dit l'Évangile, dans le tronc tout ce qu'elle possédait, elle a tout donné. Entre 1914 et 1918, des millions d'hommes et de femmes ont eux aussi tout donné. Ils ont donné leur vie pour notre pays. Si je devais les citer tous, citer aussi chacune des veuves qui ont donné leur mari bien-aimé pour la défense de notre pays, je pense qu'il faudrait non seulement des semaines, des mois et peut-être des années pour énumérer ces millions de noms que nous portons dans notre prière ce soir. C'était une sale guerre, la première que l'on peut appeler mondiale. Citons quand même les Indiens venus du pays de l'Inde. 1 300 000 hommes ont été recrutés en août 1914, mobilisés pour défendre notre patrie et travailler dans nos usines et dans nos fermes, la plupart en Angleterre, mais 138 000 ont débarqué à Marseille en septembre 1914. Ils ont été envoyés dans les tranchées en France et en Belgique. Combien sont morts ? 74 000, totalement oubliés. Il a fallu attendre ce 10 novembre 2018 pour qu'un cimetière soit inauguré à leur mémoire à Villers-Guilin dans le Nord. Citons aussi les Chinois. 40 000 ont été recrutés en 1916. Ils avaient entre 20 et 35 ans, ils étaient pour la plupart des paysans sans terre, pauvres, d'une région au nord de Shanghai. 16 cimetières gardent en France la mémoire des milliers d'entre eux qui sont morts pour notre patrie. Citons les Canadiens. 600 000 hommes sur 8 millions d'habitants en 1914, je suis allé vérifier ce chiffre sur Internet. Ils ont remporté la bataille de Vimy. À quel prix ? 66 000 morts. Citons enfin les Australiens. 420 000 hommes sur 5 millions d'habitants en 1914. 62 000 morts, 156 000 blessés ou prisonniers. L'horreur, l'horreur, pour ne pas dire la honte. Comment l'humanité a-t-elle pu en arriver là ? Les historiens en ont scruté les causes. analyser les processus, l'orgueil, la cupidité, les rivalités de pouvoir, la volonté de domination, les idéologies, les totalitarismes, possédés par le mal originel, l'homme est un tueur, un destructeur. Il détruit l'œuvre de Dieu, la merveilleuse œuvre d'amour du Créateur. Et pourtant, devant ce désastre, nous pouvons le dire. Nos morts brillent comme une lumière. La lumière du don de leur vie pour un amour, l'amour de leur patrie. Mais dites-moi, frères et sœurs, ce don a-t-il un sens? À vue humaine, j'ose le dire, il n'a pas de sens. Il n'a même pas servi de leçon, puisque 20 ans après, la guerre reprenait, mondiale elle aussi, cruelle, mortifère, stupide, inutile. Le don de nos morts a-t-il un sens? Et l'on dit que peut-être une troisième guerre mondiale est en train de couver. Pour nous chrétiens, le don de ces vies prend sens dans la mémoire d'un homme parmi les hommes. Un homme dont nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, né de Dieu, et qu'il a donné sa vie pour nous par amour. Par nos méchancetés et nos jalousies, par nos médisances et nos calomnies, par nos querelles de pouvoir, nos conflits et nos guerres, nous l'avons crucifié et nous en avons honte. Nous pleurons de honte et nous demandons pardon. Dans cette foi, certes, c'est un saut dans la foi, un saut dans la foi. Car nous croyons que dans le don de sa vie sur la croix, le Fils de Dieu a tout donné. Et la lettre aux Hébreux que nous avons proclamée nous dit qu'il est entré dans le sanctuaire éternel. Et devant le Père, il offre l'humanité pour que descende sur notre humanité cette infini amour, cet éternel amour dont le Père du ciel veut nous faire vivre. Le Fils de Dieu a tout donné, un amour sans limite, un amour dont nous croyons qu'il guérit, un amour dont nous croyons qu'il sauve, un amour dont nous croyons qu'il réconcilie. Il a donné le don qui est au-dessus de tout don, le pardon. En lui, dit l'apôtre Paul, Dieu a réconcilié le monde, il a détruit le péché pour la multitude. Alors ce soir, avec l'apôtre Paul, nous professons notre foi. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Oui, nous le croyons. En ce centenaire de l'armistice de 1918, les commémorations civiles, j'étais ce matin à la nécropole nationale de Luynes, ces commémorations, nous l'espérons, auront éveillé les consciences et fait prendre conscience des dangers de notre monde aujourd'hui. Elles auront, nous l'espérons, ravivé le désir de la paix. En cette célébration chrétienne que nous vivons ce soir, nous offrons dans les larmes et la honte le sacrifice des millions de morts de la guerre et nous prions pour la paix. Mais la paix n'est pas un mot. La paix est un acte, un engagement. La paix n'est pas celle de ceux qui disent « Fichez-moi la paix !» et tournent le dos à leurs frères dans l'indifférence. La paix est l'œuvre inlassable, persévérante, tenace des artisans de paix. Elle est une force qui agit dans le cœur. La paix est un travail. Chrétiens, nous croyons avec confiance que la paix est en nous l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Elle est l'œuvre de celui qui a dit en Jésus « Je vous donne ma paix ». L'œuvre de celui qui a pris sur lui le péché des humains et a brisé pour toujours le mur de la haine. Prier pour la paix, c'est demander à Dieu que le don de la paix travaille en nous et fasse son œuvre dans les cœurs. La paix est un engagement de tous les jours, un engagement aux petits pas qui font la paix. Les petits pardons, les petits pas de la réconciliation, les petits pas qui édifient la fraternité au quotidien, les petits pas de la paix qui feront un jour la grande paix pour laquelle Dieu nous a créés. Pour conclure, je citerai le pape Paul VI à l'ONU, c'était en 1965, « Jamais plus la guerre ». C'est la paix qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité. Et il citait le président John Kennedy, « L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Vive la paix, plus jamais la guerre. » Amen.